Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. J'ai le plaisir de débuter cette saison 3 avec le soutien de la Fondation Urgo. Créée en 2010, la Fondation Urgo œuvre au quotidien en soutenant les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients et des patientes. L'un de ses piliers d'action, c'est la prise en charge de la douleur et elle soutient, dans ce contexte, la lutte contre l'endométriose. Elle apporte un soutien financier d'une part en soutenant la recherche médicale en partenariat avec l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, mais elle opère aussi dans des actions concrètes en aidant à la sensibilisation des professionnels de santé pour un meilleur diagnostic de la maladie et une meilleure prise en charge. Merci donc à la Fondation Urgo de soutenir le podcast Parlons d'Endo et par ce biais, la sensibilisation faite aux femmes pour mieux comprendre leur endométriose, les enjeux et pour ensemble trouver des clés pour aller mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la douleur. Un grand nombre de femmes me parlent de leur douleur comme un sujet un peu flou, obscur. Et toi, comment est-ce que tu as mal ? Est-ce que c'est une douleur localisée, diffuse, intense, légère ? Est-ce qu'elle s'installe sur la durée ou est-ce qu'elle se manifeste par un coup de poignard, un coup d'électricité ? Est-ce qu'elle est liée à quelque chose ? À l'alimentation, au cycle, à la fatigue, au stress ? La douleur est un sujet complexe. Mais aujourd'hui, la médecine en sait un peu plus. Et surtout, elle s'intéresse plus au sujet. Je vais sans plus attendre accueillir le docteur Amélie Lévesque, qui est une spécialiste de la douleur. Nous allons explorer ce qu'est la douleur et les différents types de douleurs. Nous allons aussi parler des petites erreurs, des confusions que font souvent les femmes que le docteur Lévesque rencontre au travers de ses consultations. Bonjour docteur Lévesque, merci de répondre à mes questions aujourd'hui sur Parlons d'Endo. Aujourd'hui, on va parler de la douleur, de son mécanisme, en ce qui concerne l'endométriose, mais aussi la douleur en général, puisque c'est une notion qui, pour une patiente, est compliquée à définir, à comprendre. Donc, on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Vous allez mieux le faire que moi. Et puis, on pourra rentrer dans le vif du sujet ensemble.
Ben merci, bonjour à vous. Donc je suis le docteur Lévesque, je suis algologue au CHU de Nantes, au sein du Centre fédératif de pelvipérinologie. Alors j'ai la particularité de m'occuper exclusivement des patients qui souffrent de douleurs pelviennes et périnéales chroniques. Alors je suis aussi la vice-présidente de Convergence PP, qui est une société savante internationale dont l'unique objet d'étude finalement sont les douleurs pelviennes et périnéales chroniques. Notre mission, c'est effectivement de favoriser la recherche, mais aussi des échanges de scientifiques sur le sujet via des congrès pour essayer de mieux comprendre et d'avancer. Et puis, je suis la coordinatrice d'un DU que j'ai créé à Nantes en 2019, un DU de douleurs pelviennes chroniques qui forme médecins de toute spécialité, kinésithérapeute, sage-femme et ostéopathe à la problématique des douleurs pelviennes chroniques.
J'aimerais pouvoir essayer de comprendre avec vous ce que c'est que la douleur. C'est à la fois une sensation, une perception d'un individu, d'une femme qui lui est propre du coup, et en même temps c'est une alarme, un message du corps. Et y a-t-il différents types de douleurs ?
Alors, c'est une très très bonne question qui est vraiment à la base de tout diagnostic, à vrai dire. La douleur, c'était décrit au XVIIe siècle par Descartes, c'était un des premiers à vraiment travailler la physiopathologie de la douleur. Il avait dit c'est un système d'alarme qui permet de prévenir l'organisme d'une lésion, d'une menace. Il a même fait des schémas où on voyait au bout du pied comme une petite clochette et puis un fil qui remontait dans le pied, dans la jambe, dans la moelle et qui arrivait au cerveau et donc qui déclenchait effectivement cette sensation désagréable qu'est la douleur. Alors ça peut en effet être ça la douleur, c'est-à-dire un système qui prévient qu'il y a une lésion. Et ça s'appelle, bien sûr ça existe, c'est véritable, ça s'appelle la douleur par excès de nociception. On a compris par la suite que ça ne pouvait pas être que ça, parce qu'il y a pas mal de personnes, ne serait-ce que par exemple dans la migraine, qui vont ressentir des douleurs alors qu'il n'y a aucune lésion visible dans la tête, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de Descartes que pendant très longtemps, les femmes notamment qui souffraient comme ça, sans qu'on puisse comprendre ou observer de lésions, étaient un peu reléguées au rang des hystériques, des folles. On a parlé beaucoup de douleurs psychogènes. On sait désormais que ça n'existe pas en réalité.
Mais alors, ces douleurs non identifiées, entre guillemets, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'elles correspondent aux yeux de la science à quelque chose de réel aujourd'hui?
Il y a un autre grand type de douleur qui explique finalement le reste des situations, c'est la douleur par sensibilisation. On parle aussi de douleur nociplastique. En fait, il faut bien comprendre que comme tout fonctionnalité dans l'organisme, la douleur, c'est un système qui fonctionne en homéostasie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des informations, on appelle ça nociceptives, électriques, qui arrivent du corps et qui vont jusqu'au cerveau et qui renseignent sur une lésion éventuelle, et à la fois des systèmes inhibiteurs de la douleur, qu'on va retrouver au niveau de la moelle et puis au niveau du cerveau, qui vont bloquer en fait la transmission de ce message. Heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, là, assis sur notre chaise, on serait parasité par des informations de compression sous les fesses qui pourraient être douloureuses, mais heureusement, on a ces systèmes qui fonctionnent et on ne ressent pas de douleur. Le problème chez certains patients ou patientes, c'est que ces systèmes-là ne fonctionnent plus. C'est la douleur, donc au début on appelait ça dysfonctionnel, maintenant c'est nociplastique parce qu'il y a une notion de plasticité neurologique qui fait que ça ne fonctionne plus. Et du coup, les femmes ou les hommes vont se mettre à ressentir toutes ces douleurs qui normalement ne passent pas du tout la barrière de la moelle. Si vous voulez, c'est ce qui explique la migraine, c'est ce qui explique la fibromyalgie, c'est ce qui va expliquer que dans certaines situations d'endométriose, on va avoir des douleurs bien plus intenses et bien plus diffuses que les simples lésions qu'on peut observer, par exemple, sur les IRM.
En fait, on parle souvent aux femmes de la première douleur, celle qui est lésionnelle, si on prend le cas des femmes atteintes d'endométriose. Je vois une lésion, je vois un kyste ou un endométriome, une adhérence. Je comprends la douleur associée à cette localisation. En revanche, on ne parle pratiquement jamais aux femmes de l'autre type de douleur. Cette douleur par sensibilisation dont vous me parlez, le fait que la douleur se généralise, qu'on a l'impression qu'elle est diffuse, qu'elle n'est pas directement associée à des images, à des lésions d'endométriose.
C'est cette douleur-là que tout le monde comprend, et puis d'ailleurs heureusement, parce qu'il faut que quand on ressente une douleur, on se mette en quête de savoir d'où ça vient. Effectivement, ça peut être potentiellement une lésion grave, donc il faut chercher. Ça, c'est la première réaction. Mais nous, en tant que soignants, on n'a plus le droit, j'allais dire désormais, de s'arrêter à ça, c'est-à-dire « je vois pas de lésion, donc vous avez rien, madame ». Ça, c'est pas possible, c'est plus possible, parce qu'on doit savoir cette deuxième, la définition, ce deuxième type de douleur nociplastique qui explique toutes les autres situations, et j'allais dire même au-delà. C'est-à-dire que la plupart des patientes qui ont des lésions d'endométriose, ça crée effectivement de la douleur par excès de nociception, donc de la douleur, par exemple, inflammatoire. Mais le fait que ça dure, le fait que ce soit très intense, c'est ça qui va altérer les contrôles inhibiteurs, qui va les épuiser avec le temps. Et donc, il arrive un moment où il y a à la fois de la douleur par excès de nociception, il reste des lésions qui créent un petit peu d'inflammation, et il y a un ressenti énorme parce que, il y a cette sensibilisation centrale qui s'est mise en place.
Et on y vient. On peut en effet avoir plusieurs types de douleurs qui s'accumulent, qui se confondent. Et ça me semble logique. Une douleur lésionnelle, où il y a un endométriome, en tout cas à quelque chose de physiologique lié au développement de l'endométriose, et puis une augmentation de ce ressenti via la douleur par sensibilisation. C'est ce que je ressens vraiment dans mon corps et c'est ce que les femmes me décrivent. Des douleurs qui sont directement liées au corps. On sent comme un coup de poignard quand on touche une lésion dans les douleurs sexuelles, par exemple, quand il y a des problèmes de constipation, sur les lésions digestives, sur les adhérences. Ça, c'est physiologique, c'est très concret comme douleur. Et puis, il y a d'autres douleurs épuisantes, lancinantes, diffuses, des inconforts au toucher, lorsqu'on va nous frôler la peau, sur les vêtements, lorsqu'on est assis. Les douleurs quand on est dans certaines postures aussi. Des douleurs quand on dort, des douleurs musculaires un peu étranges, comme si certaines zones de notre corps étaient inconfortables, contractées, etc. En réalité, quand je me concentre sur mon corps et que j'essaie d'identifier mes zones d'inconfort, je perçois plein de nuances, plein de choses différentes. Et c'est aussi pour cette raison que je suis très heureuse de pouvoir échanger avec le docteur Amélie Lévesque. Ça peut être aussi des douleurs qui sont augmentées par cette douleur, par sensibilisation. Ça change ma perception de ma douleur et de ma situation physique, de mieux comprendre ça. J'ai été marquée tout à l'heure par les questions très précises que vous m'avez posées. Vous m'avez par exemple demandé où était précisément localisée ma douleur, qu'est-ce que ça me faisait comme sensation, des coups, des brûlures, est-ce que ma douleur survenait pendant la nuit ou le jour. Vous vous êtes intéressée à son chemin en dessinant sur mes jambes des chemins, le chemin des nerfs, le chemin des muscles. Ce type de questions, on ne me les avait jamais posées. Comment ça se passe une consultation avec un algologue ?
Alors, effectivement, c'est très important de communiquer un petit peu là-dessus parce que la difficulté dans la douleur chronique en général, c'est effectivement de laisser un peu de côté toutes les émotions pour vraiment essayer de détailler au mieux les symptômes. Il n'y a aucun examen complémentaire qui permet de voir la douleur de quelqu'un. Les patients qui sont migraineux, on pourra faire tout ce qu'on veut comme examen complémentaire, on ne verra jamais leur douleur. Mais avec ce qu'ils vont nous décrire de leur douleur, on peut réussir à comprendre d'où vient une douleur. La première des choses que je pose, la première question que je pose à toute patiente, c'est finalement où est-ce que vous avez mal ? Et ça paraît simple comme question, et pourtant la réponse est souvent très complexe. C'est vraiment pas si facile que ça de dire exactement où on a mal, notamment lorsque ça se passe dans la sphère pelvienne et périnéale. Il y a beaucoup de patientes qui ne connaissent pas bien le vocabulaire de cette zone, entre l'anus, le rectum, la vulve, le vagin, le clitoris, l'urètre. Il y a beaucoup de confusion. Donc je me sers parfois de bassin, de périnée en 3D, de schéma. J'utilise les mots pour décrire au mieux les choses et les patientes prennent ou prennent pas. Mais donc la localisation, c'est un des premiers points essentiels. Et parfois, on va mettre 5 minutes avant de répondre à la question. Ça peut être très long parce que les femmes ont envie de me dire plein de choses très importantes. Et puis parfois, elles vont arriver me dire « Oui, alors j'ai des douleurs d'endométriose », comme si c'était quelque chose de très conventionné, très bien décrit, systématique. Et je leur dis, oui, très bien, mais dites-moi où vous avez mal. Et elles me disent, c'est des douleurs d'endométriose. Enfin bon, j'ai des douleurs pendant les règles. Je dis, oui, mais où ? Où est-ce que vous avez mal ? Parce qu'en fait, la localisation, elle peut changer du tout au tout d'une patiente à une autre. Et notamment dans les douleurs périnéales et les douleurs, vous parliez proctologiques, il peut y avoir, en fonction de la localisation exacte, des diagnostics différents. On peut avoir des douleurs de l'anus, on peut avoir des douleurs de la marge anale et puis on peut avoir des douleurs du rectum, mais on peut aussi avoir des douleurs du coccyx qui donnent l'impression d'avoir des douleurs de cette zone-là ou des douleurs des muscles autour de l'anus qui donnent l'impression d'avoir des douleurs proctologiques. La localisation, c'est la première étape. Mais après, il y a la description des douleurs. Comment avez-vous mal ? Est-ce que ça pique, ça serre, ça brûle, ça gratte ? Qu'est-ce que ça fait ? Donc ça aussi, c'est des questions qui sont souvent un peu difficiles. La plupart du temps, ça reste un petit peu évasif. Mais pour certaines patientes, il y a des signes, une façon de décrire les douleurs qui vont nous amener à porter un diagnostic bien précis. Par exemple, quand on a des sensations de corps étranger dans l'anus, comme si on avait une balle dans l'anus ou quelque chose qui pique dans le vagin, ça nous amène vers une compréhension de la douleur qui est plutôt neuropathique. Ça, on sait que c'est quand un nerf en lui-même est abîmé, il va transmettre une information qui est erronée. On peut avoir, après la description des douleurs, vraiment intérêt à savoir ce qui va créer, aggraver les douleurs ou les soulager. Ça nous aiguille aussi. Et puis, il y a les questions de la temporalité. Est-ce que ça vous fait mal tous les jours ? Est-ce que c'est que quelques jours par mois ? Est-ce que ça vous fait mal la nuit ? Est-ce que ça vous réveille la nuit ? Ça, c'est essentiel. Toute douleur qui réveille la nuit, il faut absolument aller chercher une cause lésionnelle tissulaire. C'est vraiment important. Et en fait, avec toute cette enquête, j'allais dire presque policière sur la douleur, on arrive à déterminer la cause des douleurs. Et très souvent, ça arrive, en tout cas dans les douleurs proctologiques qui sont soi-disant liées à l'endométriose, que je finisse par dire, peut-être que vous avez de l'endométriose, certes, mais là, les douleurs que vous me décrivez, c'est clairement un problème de névralgie pudendale, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui n'a rien à voir. Mais la plupart des douleurs, voire toutes les douleurs chez la femme, vont être majorées en périmenstruel. Parce que c'est le jeu hormonal qui fait les œstrogènes nous rendent plus sensibles à la douleur que les hommes. Et donc, dans ces périodes-là de variations hormonales importantes, au moment de l'ovulation, au moment des règles, toutes les femmes, si elles ont des douleurs, vont avoir plus mal dans ces moments-là. Donc, vous voyez bien que ça fausse un peu les pistes.
Les douleurs sont majorées pendant les règles. C'est le jeu hormonal. Je me permets de répéter cette phrase que vient de nous citer le docteur Lévesque. C'est vrai que j'ai d'une certaine manière l'impression qu'aujourd'hui, pendant mes règles et pendant mon ovulation, j'ai une sorte d'hypersensibilité à la douleur. Et ça, j'imagine que ça doit être quelque chose à prendre en compte dans la relation médecin-patiente. Quand on a une patiente hypersensibilisée, et puis finalement hypersensible, émotionnellement très à fleur de peau, c'est le cas de le dire, le rôle du médecin, il est important dans cet accueil de la parole, dans la manière d'essayer de détendre, j'imagine, la patiente pour qu'elle peut-être prenne un peu de distance par rapport à sa situation, à ses douleurs, surtout sa situation émotionnelle, et qu'elle arrive avec vous à enquêter sur cette douleur pour que vous puissiez l'aider au mieux.
Ah bah vous avez complètement raison. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrive, moi, alors c'est pas toujours nécessaire, mais souvent c'est nécessaire, à mettre la patiente dans une condition psychologique et émotionnelle qui soit aidante pour cette enquête-là, parce qu'on voit bien que si on est parasité par de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, eh bien, on n'arrive pas bien à répondre à ces questions.
Donc ça fait aussi partie des compétences d'un médecin à ce moment-là, de réussir à aider la patiente à mettre certaines émotions de côté.
Exactement. Alors, on n'y arrive pas toujours très bien. Enfin, on essaye de faire au mieux. Nous aussi, on a des émotions qui nous sont propres. Et c'est vrai qu'il y a des jours où on est meilleur que d'autres. Mais ça fait vraiment partie du job que de se mettre dans une adéquation émotionnelle avec le patient, mais en l'amenant plutôt vers un régime neutre que nous, en allant vers son régime plutôt en général tendu. Mais ouais, c'est... Ça fait partie du job, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
J'ai l'impression que beaucoup de patientes, dont je fais partie, font des confusions. Parfois, j'appelle ma douleur fantôme, ou douleur diffuse, ou douleur neuropathique. Mais en vous écoutant, j'ai plus l'impression que c'est une douleur par sensibilisation, que je suis hypersensible en fait à la douleur. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces douleurs neuropathiques, qui font partie intégrante de la vie de certaines femmes, mais en fait pas toutes, et qui sont plutôt rares en ce qui concerne l'endométriose, si je comprends bien?
Oui, oui, et c'est très bien d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces termes qui sont parfois réutilisés à mauvais escient. Les douleurs fantômes, clairement, c'est des douleurs ressenties d'un membre amputé. Donc, c'est quasiment hors sujet dans le cas de l'endométriose. Alors, il y aurait éventuellement des douleurs quand il y a une hystérectomie ou une ovariectomie et que les femmes continuent de ressentir des contractions de l'utérus. Là, oui, ce serait approprié de parler de douleurs fantômes, mais c'est uniquement dans ce cas-là. On parle aussi, enfin les patients parlent aussi souvent de douleurs neuropathiques, et là encore je crois la plupart du temps qu'il y a une erreur. La douleur neuropathique, c'est une douleur qui est ressentie lorsqu'il y a une lésion d'un nerf. Alors quand on parle d'un nerf, on parle des nerfs que l'on connaît, le nerf sciatique, le nerf crural, le nerf radial pour le membre supérieur, il y en a plein, mais on parle d'un trajet particulier. Et la spécificité des douleurs neuropathiques, c'est qu'elles sont le long de ce trajet de ce nerf, d'accord ? Vous savez bien que la douleur qui part de la fesse, qui longe la cuisse derrière, qui part sur le bord du mollet, qui finit dans les orteils, c'est la sciatique, c'est le nerf sciatique. Bien sûr, si vous me décrivez les mêmes types de douleurs au niveau du ventre, je vais vous dire, c'est pas une sciatique. Vous voyez ? Pour autant, ça pourrait être des douleurs neuropathiques, mais il faut que ça soit dans un territoire nerveux. Et puis alors, c'est une description de la douleur très particulière. C'est des douleurs qui brûlent, qui picotent, qui fourmillent, qui sont associées à des engourdissements. Ça peut être parfois du froid douloureux. Et puis, quand on touche la peau de la zone qui est douloureuse, eh bien, ça fait ce qu'on appelle une allodynie, c'est-à-dire que le toucher devient douloureux. Et ça, c'est très caractéristique de la douleur neuropathique, et on ne trouve pas ça forcément dans les douleurs de l'endométriose. Alors, on va en reparler, mais je pense que la plupart du temps, il y a un mélange avec la douleur par sensibilisation. Cette douleur, effectivement, qui n'existe que parce qu'il n'y a plus de frein à la perception de la douleur. D'accord, comme quelqu'un qui finirait à force d'avoir des coups durs dans la vie à ne plus supporter le quotidien et être dépressif. Vous voyez, la sensibilisation à la douleur, c'est une sorte de dépression dans le corps. Et je pense qu'il faut vraiment bien avoir conscience qu'il y a ces trois types de douleurs. Donc par excès de nociception, les douleurs neuropathiques qui sont très spécifiques, et puis les douleurs par sensibilisation. Dans l'endométriose, souvent, c'est de la douleur par excès de nociception, donc liée directement aux lésions, et de la douleur par sensibilisation associée. Parfois, mais c'est rare, on peut avoir des lésions d'endométriose sur les racines sacrées, sur le nerf sciatique.
Je comprends, et pas facile donc de trouver la cause. Et c'est bien pour ça que c'est intéressant d'être aidé par un spécialiste. Pour poursuivre notre échange, j'aimerais maintenant vous interroger sur la prise en charge de cette douleur. Parce que finalement, les femmes qui nous écoutent aujourd'hui recherchent des clés et des solutions concrètes. Est-ce que c'est mieux de prendre la douleur le plus vite possible en main, de traiter le plus rapidement possible la douleur? Est-ce qu'il y a des conséquences à la laisser s'installer? Qu'est-ce que vous recommandez là-dessus et qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà, on dit que la seule douleur qui est supportable, c'est celle des autres. Et c'est vrai qu'une patiente, quand elle a mal, évidemment, on a envie de traiter le plus rapidement possible quand on le peut. Alors après, ça, c'est un premier point, évidemment, en termes de qualité de vie. On a tous envie de ne pas avoir mal, hein, ça c'est clair. Après, il y a une deuxième raison, c'est qu'effectivement, les études ont montré que dans l'immense majorité des cas, la sensibilisation à la douleur, donc cette sorte d'altération, hein, je rappelle, de la perception à la douleur, eh bien, elle s'installe lorsqu'il y a une douleur intense, et non aiguë, hein, intense, qui va persister dans le temps. D'accord. Et cette persistance dans le temps va venir entraîner des modifications, eh bien, des connexions entre les neurones au niveau de la moelle et au niveau du cerveau, qui va déboucher sur l'hypersensibilité, le fait que tout va être ressenti de façon exagérée. Donc évidemment, plus on intervient tôt et plus on se donne de chances de ne pas développer de sensibilisation. Il y a quand même aussi probablement une prédisposition, alors pas génétique, probablement pas génétique, mais plus contextuelle. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on a d'autant plus de chances de développer une sensibilisation que l'on ressent donc une douleur dans un contexte de vie qui par ailleurs est stressant, où on a vécu par exemple des choses traumatisantes, ou lorsqu'on est particulièrement insatisfait au travail.
Donc on peut dire aujourd'hui, avec les connaissances médicales qu'on a acquises ces dernières années, que la psychologie, l'état émotionnel d'une personne peut jouer sur sa sensibilité à la douleur.
Ah oui, oui, c'est un sujet très très sérieux. Et moi je m'accroche à ça beaucoup pour accompagner les patientes. D'abord, j'avais fait une petite étude dans mon service il y a un ou deux ans à toutes mes patientes. J'ai à peu près 800 nouveaux patients par an. J'ai fait passer des questionnaires en salle d'attente sur leur niveau, les caractères dépressifs, le caractère anxieux, les éléments de stress post-traumatique et les pensées catastrophiques. Et bon, j'ai retrouvé des taux de dépression et d'anxiété qu'on connaît dans la douleur chronique. Mais là où j'ai été surprise, et en même temps ça correspondait bien à ce que je ressentais, j'ai trouvé pas loin de 40% de mes patientes qui ont des éléments de stress post-traumatique. C'est énorme. La population générale, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 6 à 7%. Et effectivement, dans la fibromyalgie, donc les femmes qui ont des douleurs par sensibilisation centrale, donc extrêmement diffuse de l'ensemble du corps, c'est ça, c'est à peu près 35%. Et donc je suis allée creuser, voir s'il y avait des études qui avaient expliqué le pourquoi du comment. Basiquement, je me suis dit, bon bah d'accord, c'est parce qu'elles sont sensibilisées, elles sont un stress post-traumatique, donc elles sont plus vigilantes et donc elles ressentent plus la douleur. Apparemment, c'est pas aussi simple. Parce que j'ai plein de patientes sensibilisées qui ne sont pas traumatisées et des patientes qui sont traumatisées et qui ne sont pas sensibilisées. Mais par contre, il y a des chercheurs qui ont réussi à mettre en évidence qui avaient certainement, au niveau du fonctionnement neurologique, de la sécrétion de certaines hormones, comme l'ocytocine par exemple, qui pourraient expliquer qu'on est prédisposé, qu'on va plus facilement faire un stress post-traumatique et plus facilement faire une sensibilisation centrale à la douleur. Donc ça, c'est des pistes évidemment de recherche qui sont passionnantes, mais c'est pas simplement, vous voyez, qu'on est très loin de « j'ai de l'endométriose, c'est normal, j'ai mal ».
Un immense merci au docteur Amélie Lévesque d'avoir répondu à mes questions sur la douleur et de nous avoir aidé à mieux comprendre son fonctionnement et aussi ses subtilités. La connaissance, l'information nous aide à explorer nos ressentis, à mieux les comprendre et à trouver des clés. Ça sera le sujet de l'épisode suivant. Nous allons poursuivre notre échange avec le docteur Amélie Lévesque et cette fois nous aborderons spécifiquement les douleurs d'endométriose. Quelles sont-elles? Y en a-t-il plusieurs types? Et notamment les dyspareunies. Et puis ensuite nous parlerons des clés qui peuvent aider à apaiser cette sensibilisation à la douleur. J'en profite également pour remercier la Fondation Urgo qui soutient les épisodes du podcast et cette saison 3. On se retrouve dans l'épisode suivant pour poursuivre notre échange. Et d'ici là, passez une belle journée ou une belle nuit. Et n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo. Cet épisode est sorti à l'occasion du Podcaston. Le Podcaston, c'est un événement caritatif qui regroupe cette année plus de 450 podcasts francophones. Tous ces podcasts, à l'occasion d'un épisode, vont avoir l'opportunité de parler d'une association, d'une fondation, comme dans Parlons d'Endo, qui œuvre pour rendre le monde meilleur. J'ai choisi la fondation Urgo, qui soutient le podcast et qui agit chaque jour pour pouvoir aider à mieux former les médecins, le personnel soignant et pour améliorer, de ce fait, la prise en charge des patientes. Merci au Podcaston d'avoir organisé cet événement du 25 au 31 mars et merci à tous les podcasts qui ont parlé d'une association, qui vont parler d'une association pour mettre en avant la solidarité, l'altruisme et les initiatives qui changent le monde. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site podcaston.org pour dénicher, écouter un podcast qui vous inspire, découvrir des initiatives et pourquoi pas faire un don à une association.